Je suis content de vous retrouver. Alors, comme annoncé, donc, ce matin, nous allons méditer sur le psaume 86, page 396. Et donc, je vais en faire la lecture. Éternel, donc prière de David. C'est le roi David qui écrit ce psaume. Éternel, prête l'oreille. Exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand. Tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande. Et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des arrogants s'attaquent à moi. Une bande d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante, accomplis un signe en ma faveur, que ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Alors, si on peut, merci beaucoup. Merci, Lovely. Alors, pour étudier donc ce psaume, je vous propose de le faire en deux parties. Alors, la première partie, intitulée, comme vous le voyez, donc, « Le roi David, un modèle à suivre ». Donc, cette première partie traitera dans le détail de ce psaume. Et puis, nous verrons par la suite une deuxième partie intitulée, elle, « Le roi David, une espérance à saisir ». Et cette seconde partie nous permettra, je l'espère, de prendre un peu de hauteur et de replacer ce psaume dans une juste perspective où notre Seigneur Jésus occupe le centre. Mais donc, pour l'heure, cette première partie, le roi David, un modèle à suivre. Alors, en quoi l'attitude du roi David ici est-elle exemplaire ? Alors, nous retiendrons trois points. Sa prière, que nous venons de lire ensemble, sa prière est un modèle à suivre, car elle révèle donc chez le roi d'abord sa lucidité en se tournant vers le bon interlocuteur. Ensuite, sa foi en faisant un travail de mémoire, sa foi en se souvenant. Et puis enfin, son humilité en soumettant à Dieu son problème. Alors, premier point donc, d'abord la lucidité de David qui se tourne vers le bon interlocuteur. Ce sont les versets 1 à 7 de notre psaume. Alors, c'est ainsi, les puissants de la terre, les rois, les présidents de la République, doivent fatalement à un moment ou à un autre, faire face à l'hostilité, qu'elle soit légitime ou pas. On en veut toujours au chef, à ceux qui détiennent l'autorité. Une manifestation de notre rébellion originelle contre notre pourtant si bon créateur. Le roi David ne fait pas exception à la règle. On pourrait dire qu'il en est même une parfaite illustration. Lui qui a dû au cours de sa vie faire face à de nombreux adversaires venant de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors quel est le contexte exact de ce psaume ? Ben, nous ne le savons pas. Ce qui est certain, on le voit, c'est que David doit faire face à l'épreuve. Il connaît l'opposition. Et l'épreuve, on le voit qui est la sienne, est réelle, sérieuse. Il en va de sa vie. Verset 14. Il se déclare malheureux, pauvre, sans force. En deux mots, David est au fond du trou. La tête dans le sac. Il se retrouve dans ces moments où l'on a le moins de lucidité, où la menace fausse notre perception des choses et noircit encore un peu plus notre réalité. Mais par la grâce de Dieu, David garde sa lucidité et se tourne vers le bon interlocuteur, éternel. Prête l'oreille. C'est vers toi que je me tourne. Je fais appel à toi. En quoi l'attitude du roi est-elle exemplaire ? Il se tourne vers Dieu, vers le bon interlocuteur. David manifeste par là même sa foi, sa confiance. Il se tourne vers celui qu'il sait être la solution. David, on le voit, fait appel à la compassion de Dieu. Je suis pauvre et malheureux. Il fait appel également à sa fidélité. Alors au verset 2, c'est vrai, on le voit, c'est David qui se déclare fidèle, loyal envers Dieu. Mais cette loyauté, cette fidélité de David pour l'Éternel n'est que la réponse à la fidélité, à la bienveillance de Dieu mentionnée un peu plus loin au verset 5. Et la base de cette fidélité, de cette loyauté mutuelle, c'est l'alliance que Dieu a conclue à son initiative avec David. Alors on va lire, je vais vous lire, parce que c'est un verset important que nous retrouverons un peu plus tard dans la deuxième partie, dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Voilà ce que l'Éternel a déclaré à David. Donc c'est 2 Samuel 7, verset 16, la page 219. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nous reviendrons sur cette alliance bien particulière dans la seconde partie. Donc, David sait que Dieu a fait alliance avec lui et qu'il est le Dieu fidèle qui tient ses engagements. C'est donc bien vers lui qu'il se tourne. Alors, première application, dans les temps difficiles, est-ce que nous nous tournons vers le bon interlocuteur ? Quand tout nous crie que Dieu n'est décidément pas à la hauteur, qu'il a dû nous oublier, que son bras est trop court pour agir, est-ce que pourtant, malgré tout cela, malgré les circonstances si déprimantes, nous nous tournons vers lui dans la foi, la confiance ? Ou bien nous détournons-nous de lui pour aller chercher des solutions ailleurs ? En l'homme donc, en nous-mêmes tout d'abord, dans la bonne amie, dans l'épouse ou l'époux, dans un autre évangile, plus à notre goût, plus flatteur, a priori comme ça, plus réconfortant. La vie, c'est vrai, n'est pas simple, que de déceptions, de frustrations. Le péché est partout, avec ses conséquences désastreuses, autour de nous et en nous. Ne cherchons pas à droite et à gauche. Ne baissons pas la tête, levons-la pour nous tourner vers le bon interlocuteur, vers notre Dieu, bon et souverain, éternel. Prête l'oreille. D'autant que l'alliance que Dieu a scellée avec nous, son peuple, est bien supérieure à celle qui le liait au roi David. L'alliance qui nous unit à notre bon Père Céleste est scellée, on l'a rappelé tout à l'heure, avec le sang de Jésus-Christ. Cette alliance a pour base le sacrifice de Jésus à la croix. Autant dire une base inébranlable. Dieu nous est et nous restera fidèle jusqu'au bout. Non en raison de notre propre loyauté, mais en vertu du sacrifice de Jésus. Tournons-nous vers lui avec confiance. Il est le bon interlocuteur, le seul. Alors si le roi David se tourne vers Dieu, on le voit sur la base de l'alliance, mais il a également de bonnes raisons pour le faire. Il ne se dit pas « je vais essayer l'Éternel, je n'ai pas grand-chose d'autre sous la main, on va voir ce que ça donne ». Non, si David se tourne vers Dieu et lui manifeste ainsi sa confiance, c'est car il le connaît et il sait qu'il a ce qu'il a déjà réalisé. David, c'est notre deuxième point, place sa confiance en Dieu car il se souvient. Il fait un travail de mémoire. Ce sont les versets 8 à 13. Les versets 8 à 13. Alors David connaît bien les Écritures, en tout cas donc celles qui étaient en sa possession au moment de son règne. Bien évidemment, les 5 premiers livres de la Bible. Mais d'autres livres également, comme celui de Josué qui relate la conquête du pays de Canaan. Il connaît bien la parole de Dieu puisqu'il affirme notamment dans certains psaumes sa soif, sa joie de la méditer. En verset 8, on le voit, David proclame le caractère unique de Dieu en repensant à son œuvre de création. En effet, les commentateurs sont, c'est pas toujours le cas, mais là, ils sont en accord pour voir dans la manière d'agir de Dieu, son œuvre créationnelle. Le Dieu vers lequel je me tourne est le créateur de toutes choses. Son bras ne peut donc être trop court. Au verset 10, en évoquant les merveilles que Dieu accomplit, David se souvient cette fois-ci de toute l'œuvre de salut, de délivrance que Dieu a déjà opérée en faveur de son peuple. David pense peut-être à la sortie d'Égypte miraculeuse, à toute l'histoire de l'Exode, à la conquête, tout aussi miraculeuse. De façon plus personnelle, il pense peut-être à toutes les délivrances dont il a été lui-même l'objet jusqu'à présent. C'est vrai que lorsqu'on pense à la vie de David, à tous les adversaires qui voulaient le supprimer, on se dit que sa belle mort, sa mort de vieillesse, relève du miracle. J'ai vu au mois d'août un film. Je ne sais pas si je dois vous le recommander, un film très hollywoodien. Ça s'appelle « La vengeance dans la peau ». Alors, c'est l'histoire d'un héros. Et puis, dans le film, il y a au moins 40 ou 50 personnes toutes plus redoutables les unes que les autres qui en veulent à sa vie. Mais, eh bien, à la fin, il survit. Alors, on peut dire que voilà, Jason Bourne et David, il y a peut-être des similitudes, mais il y a aussi une grande différence. C'est que Jason Bourne s'en sort par lui-même, grâce à sa force. David lui reconnaît qu'il est sans force et qu'il a besoin que c'est Dieu qui le sauve. Donc décidément, oui, Dieu l'a délivré bien souvent. Et David se souvient. En se remettant en mémoire l'œuvre créationnelle et l'œuvre de salut de Dieu, David ne peut que reconnaître sa grandeur, sa toute-puissance, sa souveraineté, mais aussi, on le voit avant, sa bonté, son amour, verset 5. Et cette reconnaissance a deux conséquences pour David. Un Dieu aussi grand ne peut décidément pas être adoré par un seul peuple. Tous les peuples de la terre, création de Dieu, lui appartenant donc, tous les peuples de la terre viendront tôt ou tard lui rendre hommage. Alors ce verset 9, un petit clin d'œil au psaume suivant, donc évoqué par François, le psaume 87, qui va donc reprendre cette idée et la développer. Donc c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Et puis, deuxième conséquence, devant un Dieu aussi merveilleux, David n'a qu'un souhait, mieux le connaître. Il demande ainsi à Dieu, à partir du verset 11, de l'enseigner, pour lui apprendre donc à mieux le connaître, à toujours mieux comprendre sa volonté, ses voies. Deuxième attitude exemplaire donc à suivre chez le roi David. La foi qui repose sur ce que Dieu a fait en faveur de sa création, de son peuple, et qui révèle à quel point il est décidément souverain, bon, juste. Seconde application, sur quoi notre foi est-elle basée ? Des idées, nos émotions, c'est-à-dire sur quelque chose de très subjectif, intérieur, ou bien sur les œuvres de Dieu dans l'histoire des hommes. Autrement dit, sur une base objective. Les bases de notre foi sont-elles vraiment solides face à la difficulté ? Avons-nous cette discipline de nous souvenir, comme David, de ce que Dieu a déjà réalisé en notre faveur ? Et là encore, nous sommes bien plus privilégiés que le roi David. David a reconnu, on le voit, l'œuvre créationnelle de Dieu, son œuvre de délivrance pour le peuple, pour sa personne. Mais il ne pouvait qu'entrevoir, deviner l'œuvre de recréation et l'œuvre de délivrance ultime, celle qui nous délivre du péché et du juste jugement divin que Dieu a réalisé pour nous en Jésus. Au fond du trou, empêtré dans nos difficultés qui semblent, c'est vrai, parfois durer, est-ce que nous nous souvenons de notre salut acquis en Christ ? Est-ce que nous y croyons ? Est-ce que nous réalisons que c'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée ? Ce ne sont pas nos idées, notre humeur du moment qui nous sauve. C'est un acte souverain de Dieu dans l'histoire des hommes. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Il y a 2000 ans, souvenons-nous de la croix et arrimons notre foi à ce fait historique. Croyons-le, méditons sur la bonté, la grandeur, la puissance de notre Dieu. Alors, la troisième attitude exemplaire du roi David, c'est son humilité en venant devant Dieu soumettre son problème. Alors ce sont donc les versets là, 14 à 17. Remarquons dans ce psaume que David soumet son problème à Dieu seulement à la fin de sa prière. Il se tourne vers Dieu. Il se souvient de ce que Dieu a déjà réalisé en sa faveur, en faveur du peuple. Il le loue. C'est seulement après qu'il expose ses soucis. Quelle démarche remarquable. David commence par la reconnaissance, l'adoration, pour terminer par ses besoins. Dieu est sa grandeur en premier, ses besoins ensuite. Est-ce que vous m'entendez toujours ? On peut essayer de continuer comme ça ? Contrairement alors à ces hommes arrogants, orgueilleux, qui ont mis Dieu, on le voit, de côté, David, lui, en se présentant devant Dieu, confesse son incapacité à résoudre le problème par ses propres forces bien dérisoires, il le dit au verset 16. Et il confesse son besoin de Dieu pour sortir de la crise. Il reconnaît ne pas avoir les clés. C'est Dieu seul qui peut débloquer la situation. Attitude lucide et humble. David ne cherche pas, on le voit, à faire justice lui-même, mais en exposant la situation à son Seigneur, il s'en remet humblement à la justice divine. Il demande à Dieu de faire justice à sa place. Quand Dieu interviendra-t-il en sa faveur ? David ne le sait pas. Cela prendra peut-être du temps. Ultimement, Dieu fera justice lors du retour de son roi parfait, Jésus. Ce que l'on peut noter, c'est que David n'attend pas l'exaucement de sa prière pour louer Dieu. Nous l'avons dit, il a commencé par là. Et cela met encore plus en relief cette humilité qui caractérise le roi. David ne cherche pas à manipuler Dieu, à marchander avec lui, à exercer des pressions sur lui. « Si tu m'exauces, je te louerai. Tu dois me délivrer rapidement, tu dois te plier à ma volonté, répondre à mes besoins. Sinon, tu n'es pas le Dieu que tu dis être et je ne te louerai pas. » Non, David sait que Dieu est bien celui qu'il déclare être, souverain, bon, juste, qu'il est totalement digne de confiance. David expose humblement ses besoins à Dieu, sachant qu'il est bon, souverain, il s'en remet à lui pour ce qui est du moment de la délivrance. David a eu à affronter, on l'a dit, bien des épreuves. En voilà une nouvelle dans ce psaume. Bien des ennemis, et cela jusqu'au bout, jusque dans sa vieillesse. Et David a dû comprendre assez vite que la fin d'une épreuve annonce la suivante. Et que le repos ultime, la délivrance ultime, ne se trouve pas ici-bas. Pourtant, cela ne l'empêche pas de présenter à Dieu ses besoins et de manifester par là même sa totale dépendance. Troisième application, la vie n'est pas simple. Il faut le reconnaître, problème de santé, de travail, de couple, problèmes familiaux, le péché, encore et toujours avec ses conséquences désastreuses. Alors la vie, c'est vrai, est difficile. Alors ceci étant, j'aimerais, en ayant vu un peu les informations cet été, j'aimerais relativiser aussi les difficultés matérielles, affectives que nous rencontrons, nous croyants occidentaux. Hein, cet été, les médias ont exceptionnellement relayé la persécution contre les chrétiens dans d'autres pays. Donc reconnaissons aussi les bénédictions matérielles que Dieu nous accorde. Sécurité, liberté, confort. Soyons reconnaissants aussi pour cela, sachant qu'elles nous seront peut-être retirées un jour. Alors après cette parenthèse, revenons aux épreuves bien réelles de la vie, de nos vies. Devant elles, quelle est notre attitude? Sommes-nous focalisés sur elles? En faisons-nous le centre de nos vies, le centre de nos prières? Demandons donc à Dieu, dans des prières de plus en plus pressantes, marquées éventuellement par des reproches de plus en plus virulents, demandons à Dieu de nous exaucer, de répondre à nos besoins. Et le plus vite possible, guérison. Compagnon, épouse, mari, travail mieux payé, plus exaltant, une meilleure reconnaissance, réputation. Nos prières sont-elles axées d'abord et avant tout sur nos besoins matériels, affectifs, sur nous-mêmes? Ou bien, comme David, venons-nous devant Dieu de la bonne façon, humblement? Commençons par nous souvenir qu'en Christ, nous sommes déjà comblés. Au milieu de nos difficultés bien réelles, si douloureuses parfois et qui durent, méditons le fait qu'en dépit de nos circonstances, nous sommes des vénards. Nous avons reçu en Christ des bénédictions bien supérieures, à commencer par celle du salut éternel. Comme David, commençons par nous souvenir de ce que Dieu a fait en notre faveur. Soyons reconnaissants, louons-le, puis venons lui présenter nos besoins, lui déclarant ainsi notre dépendance et notre confiance. Cela l'honore, le glorifie. Et en attendant l'exaucement qui interviendra ou pas, accrochons-nous à cette vérité, Dieu est juste, bon, souverain. Notre confiance en lui est ce qu'il attend de nous. Notre seconde partie à présent, le roi David, une espérance à saisir. Alors nous verrons le contexte du troisième livre, je ne sais pas pourquoi j'ai... Le contexte du troisième livre du psautier. Et puis nous nous poserons enfin la question, Dieu tient-il ses promesses? Alors cela a été dit par François, ça fait déjà un certain nombre de dimanches que nous prêchons sur les psaumes du livre 3. Alex, Jonathan, François, les prédicateurs qui m'ont précédé ont dû déjà largement et brillamment exposer le contexte de ce troisième livre du livre des psaumes. Mais pour bien comprendre le plan large de ces psaumes et surtout la pertinence de la présence de ce psaume-là, ce psaume du roi David dans le livre 3, il est donc nécessaire de revenir un peu au plan large. Alors, donc attention, il ne s'agit pas de poser le contexte du psaume 86, mais celui du troisième livre du psautier. Alors, l'élaboration de ce troisième livre est bien postérieure à la rédaction du psaume de David. David, c'est facile, il faut s'en souvenir, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc David, il a écrit ce psaume 1000 ans avant Jésus-Christ. Et très longtemps après, après même la période de l'exil, 500 ans, 600 ans après David, d'autres auteurs ont commencé à ranger les différents psaumes, et pas n'importe comment, dans un ordre bien précis pour délivrer un message bien précis. Ils ont élaboré à ce moment-là ce qu'on appelle maintenant le psautier. Alors on peut dire que chaque psaume est parole de Dieu, mais que l'ordre des psaumes, et notamment ce découpage en 5 livres qui en a été fait, nous délivre aussi un message de la part de Dieu. Ils ne sont pas rangés n'importe comment, ces psaumes. Leur ordre a son importance, et d'ailleurs c'est l'occasion donc pour moi, je ne sais pas s'il a été évoqué, de remercier le Seigneur pour le travail remarquable d'hommes comme James Eli Hutchinson, qui est venu ici dans cette église il y a peut-être maintenant 3 ans, qui est donc le directeur de l'Institut biblique belge. Donc voilà, remercier le Seigneur pour le travail d'hommes comme cela, travail qui nous permet de mieux comprendre la parole, de mieux comprendre le dessein bienveillant et si extraordinaire de Dieu, et d'ainsi lui rendre gloire. Et puis remercie aussi Alex, qui a été l'un de ses élèves, pour ses notes bien précieuses, donc qui nous ont permis de profiter du travail de ce James. Donc cet été, nous avons étudié des psaumes qui se trouvent tous donc dans le livre 3, qui commence ce livre 3 au psaume 73 et qui finit au psaume 89. Alors la question est, quel est le contexte ? Alors donc ceux qui ont eu le privilège d'entendre les prédications précédentes sur ces psaumes seront peut-être surpris d'un titre aussi optimiste, une espérance à saisir, parce que bien le contexte de ce troisième livre est très noir, très sombre, déprimant. Il n'y a à ce moment-là plus de roi, il n'y a plus de temple. On peut relire le psaume 74 qui parle de la destruction du temple. Il n'y a plus de capitale, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de peuple, ceux qui ont survécu sont éparpillés un peu partout, bon, notamment du côté de Babylone. C'est l'exil, c'est l'effondrement d'Israël. C'est un petit peu comme la France de juin 1940. C'est un désastre national. Dieu semble avoir abandonné son peuple. D'ailleurs, c'est la conclusion du troisième livre, au psaume 89. Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois ? Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois ? Et là est toute la problématique. Les Israélites souffrent, mais plus terrible encore, ils semblent être bien seuls dans leur souffrance. Dieu les a abandonnés. Au-delà de la souffrance, de l'exil, c'est le sentiment d'être abandonné de Dieu qui fait le plus mal. Alors c'est vrai, si les Israélites sont dans cette sale situation, c'est à cause de leur péché, de leur idolâtrie récurrente. Dieu, pourtant, on l'a lu, si lent à la colère et riche en bonté, a fini par se lasser après des siècles. Dans sa bonté, il avait pourtant prévenu le peuple par Moïse, par les prophètes, par les psalmistes. Il n'a cessé de rappeler Israël à lui, de l'appeler à la repentance et à la foi. Mais Israël a rejeté son Dieu. Et on le voit, a dû endurer ce que Dieu lui-même lui avait annoncé, destruction, exil. Alors ceci étant, si certaines promesses de Dieu sont bien soumises à condition, et celle notamment de bénir le peuple en lui donnant la paix, la prospérité, et celle de bénir le peuple dans le pays, étaient soumises à condition de fidélité du peuple envers son Dieu. Donc si certaines promesses sont soumises à condition, d'autres promesses, en revanche, paraissent bien inconditionnelles. Dieu promet certaines bénédictions sans attendre de la part d'Israël une attitude exemplaire. Ce n'est plus l'attitude d'Israël qui va pousser Dieu à le bénir. Dieu va tenir ses promesses de bénédiction sur la seule base qu'il les a faites. C'est sa parole qui l'engage, pas l'attitude des hommes. Il en va de sa réputation. Dieu est le Dieu de vérité. Quand il s'engage contrairement à nous, il tient. Et l'on peut mesurer là ce qu'est la grâce de Dieu. Dieu intervient en faveur des hommes alors qu'ils ne le méritent pas. Alors c'est cet aspect-là des choses qui trouble les Israélites. Qu'en est-il des promesses inconditionnelles de Dieu ? Dieu tient-il ses promesses ? Alors, ce qui nous intéresse ce matin, ce sont les promesses concernant le roi. Dieu s'était engagé envers David dans une alliance privilégiée. On l'a lu tout à l'heure dans 2 Samuel 7. Ton trône sera établi pour toujours. David est mort. Il est enterré depuis des siècles. Son fils Salomon, même chose. Mais avec l'exil, on le voit, il n'y a plus de roi. Les descendants de David, comme le peuple, ont été soit tués, soit dispersés. Ils ne règnent plus, ils sont tombés dans les oubliettes de l'histoire. Dieu a-t-il donc menti quand il a affirmé à David que son trône serait affermi pour toujours ? Autre élément, c'est le psaume 2, avec le psaume 1 très important qui introduit tout le psautier. Dans ce psaume 2, on ne va pas en faire la lecture, on a la description d'un roi, d'un grand roi dont le règne semble universel. On parle des extrémités de la terre. Et un roi devant lequel tous les puissants vont plier le genou. Alors qui est ce roi promis par l'Éternel ? Là encore, les Israélites attendaient la réalisation de cette promesse. Ils ont pu croire que c'était David. Déception. Que c'était Salomon. Autre déception. Et que dire des rois suivants ? Toujours plus rebelle à Dieu, plus faible, plus insignifiant. Et aujourd'hui, de toute façon, plus de roi. Dieu tient-il ses promesses ? Où est ce roi glorieux ? Alors, le roi David, une espérance à saisir. L'objet ici de cette espérance n'est pas le roi David, on vient de le voir, mais celui que David annonce. David est un modèle à bien des égards, comme nous l'avons vu dans notre première partie. Mais David n'est pas seulement un modèle. Il est également, de par sa fonction royale, de par sa relation privilégiée avec Dieu, il est également celui qui annonce le roi parfait, victorieux, glorieux, présenté dans le psaume 2, à savoir Jésus-Christ. David est un peu comme une esquisse très imparfaite du véritable roi à venir. Ceux qui ont participé à l'élaboration du psautier ne s'y sont pas trompés. En plaçant ce psaume 86, donc c'est le seul psaume du roi David, en plaçant ce psaume 86 donc, dans ce troisième livre du psautier, ce livre, on l'a dit, si sombre, si désespéré, les auteurs de ce rangement ont manifesté une foi remarquable dans l'Éternel. En dépit des circonstances si tragiques, ils croient, ils continuent de croire que Dieu va en effet tenir sa parole. Il va envoyer ce roi glorieux. Et ce qui est vrai pour le roi l'est aussi pour le temple, pour Jérusalem. On le voit, psaume 74, il n'y a plus de temple. Psaume 84, Dieu d'une certaine façon va susciter un nouveau temple, Jésus-Christ à nouveau, celui dans lequel nous pouvons rencontrer Dieu. Alors il n'y a plus de roi, Dieu va susciter un roi parfait, son Messie, issu de la lignée de David. Alors quand même, je vous lis rapidement le chapitre 1 et le verset 1 de Matthieu. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. fils d'Abraham. Dieu tient ses promesses faites en 2 Samuel 7 et dans le psaume 2. Nous avons raison d'espérer en notre Dieu et en son roi, Jésus-Christ. Alors c'est vrai, le psaume 86 n'est pas un psaume messianique, comme on les appelle, comme par exemple le psaume 110, qui évoque de façon claire la présence d'un roi bien particulier et bien distinct du roi David. Dans ce psaume 86, c'est vrai, David parle d'abord de lui-même. Ceci étant, une lecture attentive du psaume peut nous permettre d'entrevoir ici ou là notre roi Jésus-Christ. Verset 2, David proclame sa fidélité, « Je suis fidèle ». Oui, c'est vrai, mais on connaît la vie de David. Hein. Qui peut dire vraiment avec force « Je suis fidèle » Qui a été fidèle, loyal, parfaitement envers Dieu le Père, si ce n'est Jésus le Fils. Verset 12. Qui a parfaitement loué Dieu et honoré son nom, si ce n'est Jésus seul. Puis à la lecture du verset 13, on ne peut que penser à la résurrection de Jésus opérée par le Père. Ce psaume a été écrit par David, qui parle d'abord de son expérience personnelle, mais il annonce aussi le grand roi à venir, Jésus-Christ, notre espérance. Est-ce que Dieu tient ses promesses ? Oui. Notre Dieu est digne de toute notre confiance. Nous avons raison, comme David, de nous tourner vers lui, de le prendre lui et lui seul comme notre interlocuteur privilégié. Tout comme David, nous sommes en but aux difficultés de la vie. Souvenons-nous que Dieu tient ses promesses. Il nous a envoyé son roi, Jésus. Fait historique, un roi étrange, puisqu'un roi serviteur. Ce roi nous a en effet servi, et de quelle manière? En prenant notre place sur la croix, en prenant sur lui le juste jugement divin qui devait tomber sur nous. Mais Dieu l'a délivré des profondeurs du séjour des morts. Il est un roi qui règne aujourd'hui, à la droite du Père, et qui revient cette fois-ci dans la gloire. Plions le genou devant lui. Dès à présent, vivons pour lui. Toujours mieux, servons-le à notre tour. Comme l'annonce le psaume 2, tous finiront par lui rendre hommage, de gré ou de force. Cela pour sa seule gloire. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons en effet te remercier pour ton roi Jésus. Aide-nous à faire de lui le roi de nos vies, chacune de nos vies. Aide-nous à vraiment faire de lui notre maître. Tu sais, Seigneur, mieux que nous-mêmes, tout ce qui ne va pas dans notre vie. Tu vois que bien souvent, on essaye d'échapper à ton règne, dans notre folie. Montre-nous, Seigneur, que en toi est la vraie vie, que tu es digne de confiance, que tu as déjà tout fait en Jésus pour que nous puissions trouver la pleine satisfaction en toi, que nous n'avons pas à la chercher ailleurs. Et vraiment, aide-nous à honorer ton roi, notre Seigneur Jésus. Amen.